105 FM.
Radio G. 105 FM.
The day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Yo la Bang Vic Mafia, salut à toutes et tous. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans votre émission Infoculture Bang Vic Mafia sur Radio G 101.5 FM. Une émission spéciale Noël aujourd'hui. Comme chaque semaine, nous vous embarquons dans nos univers de cinéma, de séries TV, de jeux vidéo, de musique, de BD, de livres, bref, tout ce que nous aimons. Et nous l'aimons d'autant plus que nous en sommes actuellement privés par des restrictions et le confinement. Et qu'il est essentiel d'échanger et de créer du lien autour de la culture. La culture est en résistance, mes amis. Alors, restons soudés avec elle, autour d'elle. Tout de suite, un morceau de musique ACDC, Mistress for Christmas, dans Bang Vic Mafia, sur Radio G 101.5 FM. Et oui, la radio qui fait le point.
Et t'as eu Anaïs, tu sais, c'est Elvire.
M'étonnerait.
Je sais pas s'il faut insister comme ça pour la sortir, pour changer les idées. Parce que la fois qu'on l'a traînée, dès qu'elle est arrivée, elle a bu 3 shots direct. Elle s'est cassée la gueule du tabouret. Elle a vomi.
Mmh. 21h.
À 21h.
À tous. Heureuse de vous retrouver ce soir dans Bandgeek Mafia pour une nouvelle chronique lecture, cette fois-ci consacrée à la bande dessinée. Au programme de ce soir, 3 titres, très différents, à la fois dans les formats et les sujets. Et je propose de commencer avec une bonne tranche de rigolade. La BD Super Nintendros de Pirate Sourcil et Nico Deda, éditée chez Jungle cette année, saura à la fois ravir les geeks et autres fans de Nintendo, car c'est l'univers proposé par le géant japonais qui est ici à l'honneur, et permettra aussi à tous les autres de s'accorder un moment de franche rigolade avec des parodies, parfois à la limite du trash. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains, ne vous fiez pas à la couverture enfantine. On découvre effectivement les personnages de nos jeux préférés, Mario, la princesse, Link, Toad, Donkey Kong, non seulement sous un autre angle, mais aussi beaucoup plus mature que d'habitude. Le gaming en prend pour son grade. Pirate Sourcil démonte cet univers geek à grands coups d'humour grivois. Dans cette BD pétillante très colorée, il s'est amusé à modifier légèrement tous les noms des personnages. Mario devient Mariole, Bowser se transforme en Boozer, Sacha en Zacha, et les Pokémon sont rebaptisés Pokémon. Les histoires proposées sont courtes et révèle moult situations plus drôles les unes que les autres. C'est donc avec le sourire aux lèvres que l'on parcourt les 128 pages de cette BD. Vous l'aurez compris, c'est un vrai régal humoristique que les éditions Jungle ont étendu à différents titres. Bloody Harry pour Harry Potter, Galère of Thrones pour Goth, l'ultime retour de la guerre retour contre-attaque pour... Vous l'aurez tous déjà compris, pas besoin d'en dire davantage. Avec la BD de l'auteur Angeline Matou. Il s'agit de Peur Bleue, édité par Delcourt en 2020. À l'image de son blog, Matou nous livre ici une BD très personnelle où elle nous fait part de ses angoisses et de son quotidien de flipper. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? Je vous lis un petit extrait de ses premières pages. Touche mon front, je crois que je fais un burn-out. T'es sûr que cette pomme est vraiment bio? Non mais t'es folle, c'est rempli de perturbateurs endocriniens ce truc-là. Tu veux refiler un cancer à ta fille? Il est où le cartable? Devoir à faire? T'as fait le chèque pour la galerie sonore? Est-ce que j'arriverai à trouver une idée pour mon prochain livre? Dans 2 semaines, je reprends l'avion. Est-ce que les gens m'aiment? Le meilleur est-il vraiment à venir? Si vous vous êtes retrouvé dans quelques phrases de la page précédente, je crains hélas que vous ne soyez un peu atteinte de la même maladie que moi, celle des gens qui paniquent. Certains la trouvent névrosée, Pour ma part, je me suis retrouvée dans pas mal de passages, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis donc loin d'être seule à souffrir d'anxiété. Ici, on découvre une large panoplie de symptômes que peuvent éprouver un bon nombre de personnes. Peur de mourir, rumination, difficulté à résister à la pression sociale, manque d'estime de soi, etc. Pour vaincre celle de la peur du regard des autres, Matou nous délivre ici ses angoisses en choisissant l'humour et l'autodérision comme thérapie. Cet ouvrage peut permettre à certains anxieux de se rassurer sur le fait qu'ils ne sont pas seuls à vivre ces choses-là, mais ces derniers ne doivent pas en attendre plus. Ici, aucune stratégie pour dépasser ces pensées parasites au quotidien ne sont proposées. Au niveau du dessin, on retrouve le très simple et minimaliste de Matou. Les tonalités bleues, froides, dominent cette BD, renforçant le malaise du personnage.
Pas peur de l'orage, pas peur des fantômes et des monstres. Pas peur d'une rage de danger, j'ai pas peur de la fin du monde. J'ai pas peur des bombes, de la peine maximale. J'ai pas peur du jugement des autres, du temps qui fait si mal. J'ai pas peur des silences, des tremblements de terre. J'ai pas peur de l'absence, j'ai pas peur de mon père. Même pas peur de l'enfer, pas peur de l'oubli. Pas peur de rester jusqu'au dessert dans les repas de famille. Pas peur d'être indécis, pas peur d'être imbécile. Pas peur d'un tatouage raté, pas peur de la calvitie. Pas peur de la maladie, plus peur de mes premières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi. Pas peur de vieillir, de voir les enfants partir. Pas peur de la fin de l'été, j'ai pas peur de mentir. J'ai pas peur de l'obscurité, de pleurer sur une chanson. J'ai même pas peur de tout quitter, j'ai même pas peur de l'avion. Moi j'ai pas peur de trahir, d'abandonner des combats. Moi j'ai pas peur d'un clown triste ou d'une armée de soldats. J'ai pas peur de la bagarre, de passer pour un sauvage. Moi j'ai pas peur, même pas peur de manquer de courage. J'ai pas peur de l'échec, passer sous une échelle. Pas peur des araignées, pas peur de perdre un être cher. J'ai même pas peur du vide, plus peur des dernières fois. Mais putain, qu'est-ce que j'ai peur que tu puisses vivre sans moi.
De partir en voyage avec la BD de Julien Blangras et Mademoiselle Caroline intitulée Touriste. Publié chez Delcourt, cet album très actuel vous propose le carnet de voyage drôle et léger d'un touriste absolu. Julien est en effet de ceux qui divisent le nombre de jours qu'ils ont à vivre par le nombre de pays du monde. Julien explique : certains veulent faire de leur vie une œuvre d'art, je compte en faire un long voyage. Je n'ai pas l'intention de me proclamer explorateur. Touriste, ça me suffit. Par où commencer ? Cela n'a pas grande importance pour Julien. Un avion, une destination, et sur place, la découverte. Avec quelques retours sur Paris, dans le but uniquement de préparer son futur voyage, il traverse le monde qui paraît parfois sans logique. Il parcourt la Colombie, la Tunisie, le Brésil, la Chine, le Mozambique. Les rencontres sont multiples et parfois déroutantes. Partout, des moments de dure réalité ou des instants de grâce inespérés. Ce carnet de voyage est adapté d'un livre de Julien Gras, intitulé également « Touriste ». Les divers épisodes, souvent drôles, constituent un agréable moment de lecture. Julien Gras pointe un regard réaliste sur le monde. Ne cherchez pas de grands paysages. Ce sont surtout des vrais moments d'humanité, touchants ou cyniques, que vous pourrez retrouver dans cet album. Le dessin rapide de Mademoiselle Caroline l'accompagne et souligne ce ton superficiel et léger. Les couleurs sont vives. En bref, les 190 pages de cet album se lisent d'un trait. Sans parti pris ni leçon de morale, il délivre une agréable sensation de découverte et de partage. À lire donc sans hésiter.
Un enfant Aujourd'hui, je vais vous parler de la série TV Tchernobyl 2019, une série HBO.
Un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Tchernobyl.
Faut-il avoir peur de la vérité, lui préférer le secret ? Ou comment la peur peut conduire à l'action juste et à faire triompher la vérité ? Il faut certes du courage pour affronter la vérité, reconstituer les faits et comprendre un événement, ainsi que toute la chaîne des responsabilités qui l'accompagnent. Mais paradoxalement, le courage est la capacité à affronter sa peur et peut-être à prendre cette peur comme guide de l'action. En ce sens, Tchernobyl est une série qui interroge la vérité et notre relation à la peur. Tchernobyl est une mini-série en 5 épisodes, créée et écrite par Greg Mazin, réalisée par Johan Rank et diffusée en 2019 sur HBO et Sky. Elle décrit la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en avril 1986 en Union soviétique et en Ukraine plus précisément, et les efforts de nettoyage sans précédent qui en ont suivi. Elle décrit à la fois le combat des scientifiques et d'un politique pour faire éclater la vérité et traduire en justice les responsables de l'accident, mais aussi le combat des travailleurs, le sacrifice de certains pour limiter les dégâts et pour sauver la région ou une bonne partie de l'Europe d'un cataclysme bien plus important. Le 26 avril 1986, une explosion secoue la centrale nucléaire soviétique Lénine sur le site de Tchernobyl et réveille la ville de Pripyat. Le réacteur numéro 4 vient d'exploser et son cœur est en fusion. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la centrale, scientifiques, ingénieurs et habitants n'ont aucune idée du drame qui se joue. Plusieurs scènes et certains dialogues sont directement inspirés du recueil de témoignages de l'écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch, paru en français sous le titre « La supplication, 1999 ». La série insiste beaucoup sur l'idée que la catastrophe nucléaire est avant tout un accident soviétique. Cette thèse est portée dès les premières minutes du premier épisode par le protagoniste principal, Valery Legasov. Plus que les opérateurs individuels mis en cause par le tribunal, chargé de statuer sur les responsabilités de chacun et présenté comme bouc émissaire du régime, Legasov convoque, avec héroïsme car au péril de sa vie, l'URSS tout entière sur le banc des accusés. La course technologique avec les puissances occidentales l'aurait conduite à être la seule nation utilisant des réacteurs avec du graphite dans les barres de contrôle. Et, je cite, « sans confinement autour de la cuve, comme ça se fait à l'Ouest ». Valery Legasov est directeur adjoint de l'Institut d'énergie atomique de Kourtchatov et membre de l'équipe ayant géré la catastrophe de Tchernobyl. Plus tard, il déclare « Voilà ce qui a fait exploser le cœur d'un réacteur RBMK. Nos mensonges !» En effet, en 1986, le mandat de Mikhail Gorbatchev marque la fin de la guerre froide. Le bloc soviétique se maintient, mais se fissure de toutes parts. Or, les secrets d'État persistent dans tous les domaines de la vie publique. Ce qui aurait empêché les responsables de la centrale nucléaire de prendre connaissance de ses faiblesses technologiques, des informations indispensables pour éviter la catastrophe. Après commencera l'ère dite de la glasnost ou transparence qui verra accorder plus de liberté au peuple, notamment plus de liberté d'expression. Peut-on véritablement dire que cet accident n'aurait pu se produire ailleurs qu'en URSS ? Les travaux en sciences sociales sur Tchernobyl, mais aussi sur d'autres accidents nucléaires, nous invitent à mettre la singularité soviétique de la catastrophe en doute. La série met aussi en avant les erreurs humaines, notamment des erreurs d'interprétation des données. Les travaux de sociologie du travail sur la centrale, particulièrement les centrales nucléaires, montrent que les opérateurs font bien plus que de suivre les procédures. Ils doivent les réinterpréter et les discuter avec leurs collègues en fonction des nombreuses situations imprévues, insolites, non anticipées lors de la conception des réacteurs. Ces parades, entre guillemets, comblent ainsi partiellement une conception nécessairement imparfaite, incapable de prévoir tout ce qui pourrait arriver, que ce soit dans les réacteurs soviétiques ou occidentaux. En Europe, la période post-Tchernobyl est marquée par des mobilisations à large échelle contre la gouvernance par le secret et les discours rassurants des gouvernements, notamment français. La protection des filières nucléaires nationales contre les critiques et mobilisation antinucléaire repose à cette période très largement sur la rétention d'informations jugées sensibles, comme les scénarios d'accidents étudiés en interne. En outre, la série met en œuvre une thèse scientiste, où la science avec un grand S, aurait non seulement la capacité de dévoiler la vérité, mais si elle est bien appliquée, d'éviter tout risque technique. Cette vision laisse bien peu de place au doute, à la controverse et au désaccord sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. À l'inverse, cette explication est très rassurante. Il aurait suffi de connaître l'effet du bouton d'urgence AZ5, pouvant conduire à l'explosion du réacteur dans certaines situations, une information classée secrète, pour éviter la catastrophe. La singularité ou la singularisation de Tchernobyl comme un accident soviétique produit une explication univoque et bien connue. Surtout, elle suggère qu'il serait très facile d'éviter qu'une telle catastrophe se reproduise. Comme si faire la vérité sur un problème suffisait pour y remédier.
Над моею голову ты добычи не добьешься, черный ворон я не тот, ты добычи не дождешься, черный ворон я не тот, черный ворон. Что ж ты вьешься над моею головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон я не твой. Ты добычи.
Cependant, la vérité est un combat indéniable pour tout scientifique, qu'il soit physicien ou historien. C'est ce que montre le personnage de Valery Legasov dans la série, lorsqu'il déclare, je cite, « Qu'être scientifique, c'est chercher la vérité, même si bien peu de gens veulent réellement que nous la trouvions. Pourtant, elle est toujours là quelque part, que nous le voyons ou pas, que nous choisissions de la dire ou non. Elle reste là à attendre pour l'éternité. » L'hypothèse de la survenance possible d'une seconde explosion beaucoup plus violente n'est pas une invention de la série. À l'époque de la catastrophe, il était évoqué l'équivalent de 4 à 5 mégatonnes et la possibilité que Minsk, qui est à 320 km de Tchernobyl, eût été rasé et que l'Europe soit devenue inhabitable. Même si discutable, cette hypothèse fait froid dans le dos. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Quel bilan en tirer 30 ans après? Le nombre de victimes demeure difficile à calculer précisément, oscillant de quelques dizaines de morts, selon les autorités russes, à plusieurs dizaines de milliers, des suites de cancer, selon The Other Report on Tchernobyl, Torch. Qu'adviendra-t-il de cette centrale alors qu'un sarcophage la recouvre pour au moins 100 ans? Ni exactement quelle menace pèse encore sur la zone de Fukushima au Japon, dont deux réacteurs sont entrés en fusion en mars 2011 suite à un tsunami. Et des centrales nucléaires françaises construites depuis 1978 et parvenues aujourd'hui au terme de leur durée d'exploitation, prévue pour 40 ans. 20 ans après Tchernobyl, revenu d'une visite de la zone d'exclusion, le philosophe Jean-Pierre Dupuis rédige un article intitulé « Tchernobyl, le sarcophage de l'humain », où il s'interroge sur les aveuglements qui persistent. Il écrit, je cite, « Il s'en est fallu de peu. Ce n'est pas un hasard que le jargon nucléaire américain, civil comme militaire, a forgé une expression pour dire cela, « near miss », qui a presque la force d'un concept. 20 fois au moins durant la guerre froide, il aura été « moins 5 ». Fermez les guillemets. Que faire ? Pour nous rendre les moyens d'agir, Jean-Pierre Dupuis rappelle le concept d'heuristique de la peur proposé par le philosophe allemand Hans Jonas. Il dit qu'il faut, je cite, ouvrez les guillemets, réhabiliter la peur. La peur que j'appelle de mes voeux ne paralyse pas, écrit-il. Il s'agit d'une peur intellectuelle, simulée, qui consiste à anticiper sur la peur que nous éprouverons certainement lorsque la catastrophe se produira. Il s'agit de stimuler notre imagination de façon à nous représenter ce que nous sommes incapables d'éprouver aujourd'hui, parce que c'est beaucoup trop abstrait. C'est l'heuristique de la peur. Une peur préventive et contrôlée, une peur utile à l'action. Fin de citation. Tchernobyl est une série qui interroge la vérité et notre relation à la peur. Elle met en avant le sacrifice héroïque des femmes et des hommes qui ont travaillé sur la centrale en fusion, celles et ceux qui ont contenu l'extension de la catastrophe, celles et ceux qui ont contribué à faire éclater la vérité. La série rend hommage à leur courage. Et nous avons beau savoir que tout cela est passé, nous n'en regardons pas moins la série avec appréhension et peur. La force de la mise en scène, la force de la musique, la force du jeu des acteurs nous entraîne. Et loin de nous sidérer, cette peur nous donne à penser. Il faudrait maintenant qu'elle nous incite à agir durablement et de façon responsable. Merci de votre écoute.
Цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом, быть может, старая тюрьма центральная, меня парнишечку. Я знаю, милая, улица, дороги разные, нам суждены опять по пятницам. Пойдут свидания и слезы горькие. Моей родни опять по пятницам. Пойдут свидания.
Oh, Santa, I've been waiting on you.
That's funny, kid, because I've been coming for you.
Over, kid, because I got a bullet in my gun.
A bullet in your what?
It's gone, it's gone. You know it's gone.
Life is hard, but look at me, I turned out all right.
Hey Santa, why don't we talk about it, work it out?
Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids, you know that. Hell, I remember when you were just 10 years old, playing out there in the desert, just waiting for a sip of that sweet Mojave rain.
In the sweet Mojave rain, the boy was on his own.
Don't shoot me, Santa Claus, I've been a clean living boy, I promise you. Did every little thing you asked me to. And I can't believe the things I'm going through.
The sun is going down.
Et oui, vous écoutiez The Killers, Don't Shoot Me Santa, dans Bangit Mafia sur Radio G 101.5, votre émission Info Culture. Maintenant, nous allons écouter Seb qui va nous parler du cinéma. À toi,
Seb. Dans les sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production, s'annonce comme une immense accumulation de spectacles.
At night, I tell you people, when that cold, cold sun goes down. At night I tell you people, when that cold, cold sun goes down, I cry, I sigh, I wanna die, cause my baby's not around.
Bonjour à toutes et à tous. Au mois de juillet dernier, Télérama consacrait tout un dossier aux films cultes, ces films qui nous rendent dingues. Donc c'est à partir de ce dossier que je vous propose ma chronique de ce soir. Pendant le confinement, médias et plateformes de VOD n'ont cessé d'aiguiller le spectateur, enseveli sous les propositions, vers des classements ou des bouquets de films cultes. Mais que signifie donc cette expression, employée pour des longs métrages aussi différents que Casablanca de Michael Curtis, The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman, ou C'est arrivé près de chez vous de Rémi Bellevaux, André Bonzel et Benoît Poulvorde? Si l'on en croit sa connotation religieuse, l'œuvre culte appartient à une chapelle d'adeptes qu'il aime de manière irrationnelle, y compris et surtout pour ses défauts. Puisqu'il s'agit d'un rapport subjectif à l'œuvre, toute définition s'avère illusoire. Bon courage, l'a répondu en riant Jean-Olé Laprune, distingué historien du cinéma et créateur en 2008 de la plateforme de SVOD Filmo TV, qui s'est ainsi à multiplier son activité par 3. Le terme l'agace. Avant, il ne concernait que les films visibles en séance de minuit, comme le si singulier Irresurrected de David Lynch, mais il est aujourd'hui dénaturé. À Filmo TV, nous interdisons même à nos chroniqueurs de l'employer et les invitons à trouver des synonymes. Bertrand Tavernier aussi déteste cette notion. On l'utilise aussi bien pour des nanars, des regatons de cinéma, que pour un film méconnu d'Ozu. Pour ma part, j'ai des films de chevet, ou plutôt des cinéastes auxquels je reviens sans cesse, et c'est tout. Essayons tout de même d'établir un humble corpus de ces œuvres rassembleuses, comme les définissait l'écrivain et sémiologue Umberto Eco, qui en 1985 s'était penché sur la question dans Casablanca, Cult Movies and Intertextual College, un article non traduit, lui-même devenu culte. Blade Runner de Ridley Scott, Shining de Stanley Kubrick, La Nuit des Morts Vivants de Romero, avant que les zombies ne pullulent, Scarface ou Phantom of the Paradise de Brian De Palma, tous ces films auxquels personne ne dispute le statut de culte relèvent d'un genre. Auteur de nombreux livres sur le 7e art et récemment commissaire de l'exposition Comédie musicale La joie de vivre au cinéma, N.T. Bean voit encore dans la comédie musicale une catégorie propice à la dévotion restreinte. Si elle est populaire en Amérique, elle n'est appréciée en France que par une minorité éclairée. Ce sont d'ailleurs les Français qui ont commencé à vouer un culte à Chantons sous la pluie, alors qu'un Américain à Paris de Vincente Minnelli était plus respecté outre-Atlantique. Et puis le film de Stanley Donen est sorti progressivement de sa chapelle pour devenir un classique. Le culte est devenu culture commune. Moins une œuvre obéit aux règles du cinéma traditionnel, plus elle est excentrique ou carrément mauvaise, comme le plan neuf intergalactique de Nanar de l'espace d'Ed Wood, vénéré par Tim Burton, et plus elle est défendue par un petit cercle de fanatiques. Le mauvais goût assumé peut aider, comme pour Phantom of the Paradise ou The Rocky Horror Picture Show, mais pas seulement. Dans les deux cas, ces étranges films musicaux connurent l'échec à leur sortie. Le délire enfariné de Jim Sharman trouvant refuge au bout d'une semaine lors des séances de minuit où les adeptes se mirent à rejouer le film dans la salle. Depuis presque 40 ans, ce rituel continue dans de petits cinémas de par le monde. À 19 ans, alors étudiante en kind philo, la réalisatrice Julie Bertuccelli l'a vécu. Quelle sidération déjà quand j'ai découvert la foule qui faisait la queue devant le studio Galande. Les touristes, les étudiants, les habitués de tous âges venus plus ou moins maquillés et déguisés, leurs sacs de riz à la main, avec des bouteilles d'eau, des journaux et des parapluies. Puis, les grandes lèvres rouges sur fond noir remplissent l'écran et la moitié de la salle entonne les paroles des chansons que je ne connais pas encore, avant que tous les spectateurs, moi la première, se lâchent, dansent, hurlent, rient au Black Salas. Un délire, l'impression d'assister à une messe noire. Ce n'est pas l'œuvre qui fait le culte, mais le culte qui fait l'œuvre. La cinéaste Catherine Corsini voit dans ses divers films de genre des spectacles saisissants, y compris dans leurs transgressions. Elle se souvient, comme si c'était hier, de son sentiment de découvrir une perle, un film sans mode d'emploi devant Donnie Darko, la rêverie fantastique empreinte de satire sociale de Richard Kelly. Grande fan de films de monstres, sa consoeur Pascale Ferrand préfère, elle, parler de jubilation devant Blade Runner de Ridley Scott, ou les Gremlins de Joe Dante. Mal élevé ou pas, un film devient culte par son audace, sa puissance d'invention. Initiatrice de la Cinéthèque, site de cinéphilie gourmande nourri des films préférés de cinéastes du monde entier, elle exulte à chaque nouvel arrivage sur le catalogue. Quand nous rendons visibles des raretés, c'est Noël. Frédéric Lapiche dit souvent que c'est comme si nous étions devant une vitrine de pâtisserie. Ferrand s'était précipité à la Cinémathèque qui montrait enfin et en VO non sous-titré « Derrière le miroir » de Nicolas Rey. 300 personnes faisaient la queue pour ne pas rater cet unique rendez-vous et se vantaient de faire partie du club très fermé de ceux qui l'avaient vu. Au choc initial succède ainsi le temps qui passe. Devenu une référence dans les banlieues, Scarface de Brian De Palma tient de même son succès des débuts historiques de la cassette VHS que les plus jeunes empruntaient aux plus grands avec le frisson de l'interdit. Mais l'amour, surtout aveugle, s'entretient. Le film adoré se voit et se revoit avec le même bonheur, sans en venir à bout. Dans ce temps de la répétition vibre chaque fois l'espoir de retrouver le coup de foudre initial, et le film acquiert la valeur d'une Madeleine Proustienne. Marc Fitoussi abonde dans ce sens. J'ai d'abord pensé à deux pépites chic, « Dangereuse sous tout rapport » et « Veuve mais pas trop » de Jonathan Demme. Mais pour être honnête, mon vrai film culte reste cette comédie française au titre improbable, « Cause toujours, tu m'intéresses » d'Edouard Le Molinaro. Je me revois petit en train de visionner et revisionner ce film que nous avions en VHS. Et la musique de Vladimir Kosma, jouée par Stéphane Grappelli, me rend à chaque fois nostalgique. Sur la durée, certains titres peuvent aussi perdre leur statut singulier et entrer au Panthéon. Tel Vertigo d'Alfred Hitchcock, devenu invisible quand Hitchcock décida de récupérer la copie, qui fut l'objet d'une véritable chasse au trésor. Rendu au regard du plus grand nombre dans les années 80, il y caracola vite en tête du patrimoine cinématographique. Or, le consensus tue le culte. Souvent synthèse de leur époque par leur style typé, les films cultes apparaissent comme des ressources identitaires fortes. Ainsi en va-t-il de La Haine, film sur la banlieue, grand frère de tous les autres. Les communautés de fans peuvent aller d'une génération entière, La Cité de la Peur des Nuls ou Fight Club de David Fincher, élu totem des années 90, à un groupe social particulier. Pour Jean-Olé Laprune, les qualités cinématographiques restent à la marge. Identification. Continental Circus est le film des motards, Le Jardin des Finzi Contini de Vittorio De Sica, 1970, celui de certains homosexuels, et Monsieur Vincent de Maurice Cloche, 1947, est culte pour les catholiques. Chez certains Happy Few, la volupté naît de la comparaison. Par exemple, entre deux adaptations d'un même sujet, il tombe en pamoison pour la plus mal aimée. Tel Arnaud de Pléchin, qui a choisi entre Les Liaisons Dangereuses de Stephen Frears et Valmont de Milos Forman, je me souviens encore du mercredi matin où j'ai découvert Valmont dans une salle vide, vaguement déçu. Quel aveugle j'ai été. Aujourd'hui, le romantisme 19e-iste du Frears ne m'enseigne plus rien, quand Valmont m'enchante à chaque nouvelle vision, 20 à ce jour. Même inclination élective au sein de la filmographie d'un auteur, adepte de la première heure de The Host de Bong Joon-ho, Pascal Ferrand en fait l'éloge chaque fois qu'elle croise un admirateur de Parasite. Choisir l'autre, c'est aussi s'attacher à sauver Tony Scott, frère de Ridley et méprisé par les critiques, et défendre les Prédateurs avec Catherine Deneuve et David Bowie en vampire sublime, jusque dans son esthétique publicitaire. Jeff Bridges et son Black Russian, Belmondo et son Picombière, Lino Ventura, Bernard Blier et Francis Blanche, Jean Lefebvre qui se risque sur le bizarre d'une gnôle faite maison dans la cuisine, comment expliquer la vénération de films aussi différents que The Big Lebowski des frères Cohen, Un singe en hiver d'Henri Verneuil ou Les éternels tontons flingueurs de Georges Lautner? Tout bonnement, par le goût de l'ivresse et de la liturgie comique qui y est en France attachée. Ces grands gosses qui se mettent de grosses baffes, rêvent du Yang Tse-Kiang ou traînent en peignoir, trimballe un mélange de mélancolie et de régression parfaitement soluble dans le culte. La force soit avec toi. Star Wars, le bébé culte de George Lucas, n'est pas un film, mais une galaxie, avec ses suites, ses objets dérivés. Le parfait exemple de ce qu'Umberto Eco nommait « un monde complètement meublé ». Donc fourmillant de références, de citations, d'hommages. Dommage offert à ces consommateurs dévoués, toujours à la recherche du micro-clin d'œil qui leur a échappé. À l'orée des années 2000, avec Matrix, les sœurs Wachowski proposèrent une autre néo-SF close sur elle-même, où les fans peuvent en vrac retrouver l'allégorie de la caverne de Platon, simulacre et simulation de Jean Baudrillard, et même des indices de complotisme. À sa manière, la filmographie de Quentin Tarantino se déguste aussi comme un univers en soi, reflet de sa vidéothèque personnelle, construite à coups de citations de films de kung-fu et d'obscures séries Z. Elle rassemble une communauté de fans bien plus grande que les films qu'elle cite. De l'art de transformer des chapelles en cathédrales. Thérèse en mortard, liaison dans le tiroir. Les phrases comme celle du Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiret ont aussi des films cultes. On ne laisse pas bébé dans un coin. Une seule réplique de Dirty Dancing peut devenir le cri de ralliement de toutes les adolescentes qui se sentent laissées pour compte. Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés ou La Cité de la Peur se sont ainsi échappés depuis longtemps du domaine cinématographique pour devenir des liens de connivence, des ciments sociaux. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Les dialogues du bon, la brute et le truand et d'autres western spaghetti de Sergio Leone ont pris valeur d'aphorismes. Louis-Julien Petit, lui, est incollable sur Les Trois Frères. Je connais par cœur cette touchante comédie sociale des inconnus que j'ai vue 3 fois en salle et 20 fois en VHS et DVD ensuite. Ça va vous plaire, c'est du latin. Ou ça a fait mes 68. Ce sont des répliques que je cite une fois par jour. Cédric Clapiche a mis du temps à comprendre l'engouement autour du Péril jeune, au croisement de plusieurs motivations cultes. Film confidentiel d'abord réalisé pour la télé, devenu viral grâce à la VHS, et enfin générationnel, qui se regarde en bande. Et en a saisi l'intensité 10 ans plus tard. En tournée de promotion pour Les Poupées Russes à Montpellier, il finit la soirée en boîte de nuit avec Romain Duris. Il était 2h du matin quand une bande de 6 copains reconnaît Romain. Hey, « Vous êtes Tomasi !» Et les voilà en train de nous jouer une scène du Péril jeune à la virgule près. Nous-mêmes avions oublié les dialogues. Le film leur appartenait plus qu'à nous. Le cœur du culte se niche bien là, dans cette confiscation, cette appropriation par le spectateur. Et peut-être aussi dans une persistance du plaisir à laquelle Pascal Ferrand donne une bien jolie définition. Un film culte, c'est un film qui insiste. J'espère que cette chronique vous aura donné envie de voir ou de revoir des films cultes. Ces films, ils nous passionnent pour mille et une raisons. Leurs qualités, leurs défauts, leur mauvais goût, leur univers, leur rareté ou leur réplique choc. Mais au fond, c'est ça un film culte.
www.radio-g.fr
Est-ce que vous aimez votre travail? Les atrocités que vous voyez?
Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire, la plupart du temps.
Il y a 7 péchés capitaux. La gourmandise.
Vite, venez voir ça!
L'avarice.
On touche à rien!
La paresse. La colère. L'orgueil. La luxure et l'envie. 7.
Il y a eu 2 meurtres, il faut s'attendre à 5.
On a trouvé le corps mardi matin.
Je déteste cette ville.
Il faut... Yo les banguiques, aujourd'hui je vais vous parler de Millennium 6, la fille qui devait mourir, paru en 2019 aux éditions Actes Sud. J'en profite aussi pour parler de tout simplement la saga Millennium, les 3 premiers tomes écrits par Stieg Larsson, et puis là, bah, les 3 derniers, le 4, le 5 et le 6, par David Lagercrantz. Il fallait que j'accepte de ne pas écrire comme Stieg Larsson, écrit David Lagercrantz. Courageux ou kamikaze, David Lagercrantz? Après Zlatan Ibrahimovic, il s'attaque à un autre mythe, Millennium. Le roman qui a fait souffler sur le monde du polar un vent meurtrier et suscité d'innombrables vocations chez les écrivains nordiques. Petit rappel en chiffres de ce phénomène d'édition. Le premier volume de la trilogie suédoise apparu en 2005, quelques jours après la mort brutale, crise cardiaque, de son auteur, Stieg Larsson, qui n'avait que 50 ans. Les 2 autres volumes sont sortis en 2006 et 2007. Et depuis, le tout s'est vendu à 82 millions d'exemplaires dans le monde. Lorsque l'éditeur de la famille de Stieg Larsson ont proposé à David Lagercrantz d'écrire un volume 4, il n'a pas hésité. Un projet controversé. Ses suites fabriquées n'ont jamais rien donné de bon. Mais qui s'annonce déjà comme un succès commercial, rien qu'en France. 500 000 exemplaires étaient mis en place dès les premiers jours, alors que personne ne l'avait encore lu. Comment imaginer pourtant qu'il était possible de ressusciter la magie de ces romans écrits dans une sorte d'état de grâce, au point que les lecteurs s'identifiaient à une hackeuse gothique ou à un reporter déprimé? Le résultat? Rien à voir avec Millennium, mais un polar plutôt réussi. Chasse aux sorcières. La succession a en effet suscité bien des protestations et des remous dans le petit monde du polar. Une véritable chasse aux sorcières, se souvient-il. Mon père, qui est un grand intellectuel, me disait « C'est un privilège de susciter une telle tempête autour de soi. » Peut-être, mais sur le moment, ce fut terrible. Et comme vous le voyez, j'ai survécu. J'en suis même ressorti plus fort. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Car ce fut une expérience excitante et riche. Soudain, le vin a tourné. Les critiques ont été bonnes et les lecteurs ont commencé à m'écrire pour me remercier d'avoir relevé le défi. J'aurais pu continuer. La demande était là, mais j'arrête. Stieg Larsson a écrit 3 volumes. J'en ai écrit 3. Je pense que c'est juste comme cela. Je ne me voyais pas être lui toute ma vie. Il est temps de passer à autre chose. Avant de tourner la page, il nous a toutefois concocté ce Millennium 6, ultime immersion dans l'univers un peu pourri et passablement dangereux d'une société suédoise bien moins lisse qu'elle n'y paraît. Nous sommes à la mi-août. Le journaliste Mikael Blomqvist, un brin désabusé comme souvent, a travaillé tout le mois de juillet sur le krach boursier et le rôle joué par une certaine usine à trolls russes dans la crise. Mais il n'est pas satisfait. Opération Moscou. De son côté, Lisbeth, mais il l'ignore, est partie pour Moscou. À partir de maintenant, je serai le chat, pas la souris, lui a-t-elle annoncé lors de leur dernière rencontre. Elle n'en a pas dit plus, mais le lecteur comprend vite qu'elle a décidé de régler définitivement ses comptes avec Camilla, sa superbe et terrifiante sœur jumelle, s'est réfugiée dans son manoir de Rublovska, à l'ouest de la capitale, en compagnie de ses complices mafieux. Lisbeth aura-t-elle le dessus? À moins que ce ne soit elle, la fille qui devait mourir, évoquée dans le titre. Un sans-abri assassiné. C'est à ce moment-là qu'un sans-abri est retrouvé mort dans un parc de Stockholm. Il est de petite taille, à une soixantaine d'années, et semble avoir traversé des épreuves inimaginables. Son corps porte des marques de gélure. Il lui manque plusieurs doigts et plusieurs orteils, relève le médecin légiste Fredrika Niemann à Mikael Blomqvist. La spécialiste a découvert que le décès de cet homme était d'origine criminelle. Or, le numéro de téléphone du journaliste se trouvait dans sa poche. À partir de là, comme toujours chez Lagercrantz, les choses s'enchaînent rapidement, portées par des dialogues efficaces et vivants. Multipliant les points de vue et les personnages secondaires, l'écrivain nous emmène du sommet de l'Everest aux coulisses souterraines de la raison d'État. Au fil de l'enquête, il est question du gène du Sherpa, d'un ancien officier de renseignement devenu ministre suédois de la Défense et du nouvel amour de Mikael Blomqvist. Pendant ce temps, à Moscou, tout en donnant à distance des coups de main à l'enquête, grâce à ses talents de hackeuse, Lisbeth prépare la grande bataille finale contre sa jumelle. Épique et tutoyant l'impossible, la confrontation sera digne des meilleurs James Bond. Voilà, si vous êtes comme moi accro à la saga, fan de Lisbeth Salander, la hackeuse gothique, une guerrière au bouclier numérique, mais aussi au brillant et idéaliste journaliste Mikael Blomqvist, alors n'hésitez pas et lisez la suite de la saga aux éditions Actes Sud ou Babel en livre de poche. Je rappelle le titre, Millennium 4, ce qui ne me tue pas, Millennium 5, la fille qui rend des coups pour coups, Millennium 6, la fille qui devait mourir. Merci à vous.
Radio G 101.5 FM.